Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La capitale congolaise a connu une journée particulière ce mercredi 3 juin, marquée par l'appel de l'opposition à observer une ville morte pour protester contre tout changement de la constitution. En parallèle, les partis de la majorité présidentielle et les autorités ont invité la population à poursuivre normalement leurs activités. Dans les rues, l'ambiance était contrastée. Certaines artères étaient presque désertes, tandis que quelques habitants ont tout de même choisi de sortir. D'autres ont préféré rester chez eux pour suivre l'évolution de la situation. Certains parents affirment avoir préféré garder leurs enfants à la maison par précaution, alors que d'autres ont vaqué sans difficulté à leurs occupations. Dans plusieurs points sensibles de la capitale, des dispositions policières renforcées étaient visibles, notamment à Sainte-Thérèse et à Kimbuta, dans la commune d'Injili. La même situation était aussi observée dans certaines villes de la RDC. Quelle évaluation faire de cette journée du 3 juin à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission en ligne Meshack Mandefou. Il est professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Il est député national élu de Kazumba au Kasaï Central. Il est également président du groupe parlementaire AACPG à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable Meshack Mandefou.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et aussi en ligne, Prince Epengue, il est président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. On dit qu'il n'est pas encore là. Et ici au studio, Alidor Tubanda, docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale IPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Bonsoir professeur Alidor Tubanda.
Bonsoir Monsieur Guy Maté, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, pas d'embouteillage dans plusieurs artères comme à l'accoutumée, une circulation timide, un calme inhabituel dans une ville souvent mouvementée. C'est le visage contrasté qu'a présenté Kinshasa dans la matinée de ce mercredi 3 juin 2026. L'opposition appelée à observer une ville morte pour protester contre tout changement de la constitution, tandis que les partis de la majorité présidentielle et les autorités invitaient la population à poursuivre normalement leurs activités. Certains parents affirment avoir préféré garder leurs enfants à la maison par précaution, alors que d'autres ont vaqué sans difficulté à leurs occupations. Dans plusieurs points sensibles de la capitale, des dispositifs policiers renforcés étaient visibles, notamment à Sainte-Thérèse et à Kimbuta, dans la commune d'Injili. Mais quelle était la situation dans d'autres villes du pays? Alain Rung revient sur l'ambiance qui a prévalu ce mercredi.
À Kikwit, dans la province du Kwilu, les activités se sont déroulées normalement, selon plusieurs habitants que nous avons joints. Les écoles ont ouvert et de nombreux parents y ont envoyé leurs enfants. À Mbandaka, dans l'Équateur, la situation était timide tôt le matin, avant de commencer à se normaliser selon nos sources. À Kananga, au Kasaï Central, les activités se sont également déroulées normalement. Magasins, écoles, universités et services publics étaient ouverts. La police était déployée en nombre dans plusieurs points sensibles, notamment à Limo-Kassai, au rond-point Carrefour, à Notre-Dame et au croisement des avenues Louloua et Kassavubu. À Kindu, dans le Maniema, la situation était calme, tout comme à Bunia en Ituri, où la tension reste tournée vers la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. À Lubumbashi, nos sources indiquent que la situation était normale dans l'ensemble. Enfin, à Matadi, dans le Congo central, les activités se sont déroulées normalement. Au rond-point Bouima, comme au marché Mvoidou, magasins et boutiques étaient ouverts et la circulation dense. Les agents de la circulation routière étaient en poste et des éléments de la police étaient visibles dans plusieurs carrefours et points sensibles.
Merci à vous, Alain Irung. Prince Epengue, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà. Je rappelle que vous êtes... Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Hein. Essayez de vous isoler un peu. Alors...
Je suis déjà isolé.
Voilà. Je rappelle que vous êtes président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. Après avoir suivi ces reportages d'Alain Irung qui nous brosse, n'est-ce pas, l'ambiance qui a prévalu ces mercredis, et aussi les informations en votre possession à ce sujet, quelle évaluation vous faites de cette journée à Kinshasa et ainsi que dans certaines villes de la RDC?
La ville manque de traiter par l'opposition
Prince
politique.
Prince Epengue, apparemment vous avez activé... Prince Epengue, vous me suivez? Prince Epengue. N'activez pas les modes main libre. Parlez normalement au téléphone.
Merci beaucoup. Je crois que... Est-ce que vous m'écoutez ça?
Difficilement, difficilement. Essayez de bouger un peu. Oui. Allez-y.
Oui. Je peux parler?
Oui, mais la ligne n'est pas claire. Essayez de bouger un peu.
Voilà. Je bouge un peu. Est-ce que vous m'entendez là?
Oui, mais difficilement. Allez-y.
Oui, je disais que la ville manque convoquée par l'opposition politique et la société civile a connu un succès à 80%. À Kinshasa, principalement, dans les quatre districts, à la Kiangu, à la Moramba, à la Funa, et à le Kunga, les Congolais ont respecté le mot d'ordre de la du Congo, de l'Éthiopie, de l'ensemble, de l'envol LGBT et de partie de Jama Kabongé. La population a suivi l'appel à rester chez eux à la maison. Et malgré les intimidations de Jean-Pierre Liaou, il a demandé à tous les fonctionnaires de se rendre au travail sans être sanctionné. Malgré les intimidations du vice-ministre de l'Intérieur Eugénie, qui a intimidé les Congolais, malgré les appels de l'IDF, qui a pris des mégaphones le soir et s'assurer pour réveiller les Congolais avec des fanfares pour aller au travail, malgré les intimidations du gouverneur et de la police qui ont obligé les magasins à ouvrir et jusqu'à 13 heures. Mais que la population congolaise, consciente de sa responsabilité, consciente que son avenir est en jeu, a respecté les consignes de l'opposition et est resté à la maison. Voilà pourquoi ici, dès d'entrée de jeu, je voudrais rendre hommage aux Chinoises et Chinois. Kinshasa, autrefois, envoûté de Paris de Peste, Kinshasa est délivré. Et nous disons merci à Jésus, merci au peuple qui a compris que au Congo aujourd'hui, parce qu'en réalité, le fait que le peuple ait décidé de rester à la maison, ce n'est pas pour moi, Prince Epengue, et à cette couronne en partie, ce n'est pas pour la coalition 74, même si nous avons fait appel, le peuple est resté à la maison. Et qui m'ont refusé de sortir avant tout pour envoyer un signal fort à M. Tshisekedi pour lui dire que vous ne pouvez pas diriger le Congo comme un éléphant entrerait dans un magasin de porcelaine. Dans ce qu'il est là, sans se rendre compte que en violant toutes les lois du pays, sans se rendre compte que en ignorant les délibérateurs du peuple, Félix Tshisekedi est allié à sa perte. Donc le signal envoyé au Congo à Kinshasa, ce n'est pas pour faire plaisir à Martin Sayrou, ce n'est pas pour faire plaisir à Moïse Koumbi, à Félix Tshisekedi, à l'ensemble ou à l'aide du Congo. Je continue de dire clairement, M. Félix Tshisekedi, monsieur, au Congo, quand elle a été dit Étienne, M. Félix Tshisekedi, à son âme, ce qui a détruit le Congo, c'est le vol, c'est le mensonge, et le détournement des deniers publics, qui est devenu le sport favori de ce régime. C'est le mensonge qui a fait gouverner le Congo. Le message envoyé à la population de Kinshasa et au-delà de Kinshasa, à l'intérieur, à Kikuchi, à Lubumbashi. Et ailleurs, les gens qui ont refusé de sortir, c'est pour faire Félix Tshisekedi. Dans ce pays, On a connu le programme des 100 jours. On a détourné. On a connu le programme de Chile Ingénieux. On a détourné des millions. On a connu le programme Kimelinda. On a détourné. On a connu le jeu de la francophonie. On a détourné. On nous a même volé l'argent dans les téléphones avec la taxe rare. On ne sait pas où l'argent est parti. 145 territoires. Des millions sortis, il n'y a que 9 millions de dollars. Donc, on peut avoir les factures, les preuves de téléphone. Bref, si le Congo est dans cet enfer, le Congo est dans la pauvreté, ce n'est pas la constitution, c'est la médiocrité des dirigeants. C'est le message que le Congo a envoyé aujourd'hui. Et l'autre message, c'est de dire à Félix Tshisekedi, la priorité au Congo, c'est de donner de l'eau. Nous continuons à boire de l'eau impropre, c'est de donner l'électricité. Nous sommes dans le noir chaque jour. Nos enfants sont devenus de cela à cause de l'absence du courant. Ils sont obligés d'aller regarder les matchs sur les matchs de l'Europe aujourd'hui, à des terrasses, à des bars, et des
boîtes
où ils doivent acheter de l'alcool pour regarder les matchs. Donc, c'est ça le message envoyé par le projet. C'est sûr que ça donne un carton son à Félix Tshisekedi. Donc, il a les oreilles pour entendre.
Voilà, vous dites que cette journée a connu un succès à 80%. Les personnes qui sont restées chez elles, est-ce par peur de l'inconnu ou c'est plutôt par conviction?
Les personnes, 85%, je veux dire même pour être beaucoup plus clair, 89% des Congolais qui sont restés à la maison, 89% des Congolais, des Chinois, qui sont restés à la maison, à Lukunga, à Mouamba, à la Founa, femmes, hommes et enfants. Même les chiens, même les mouches ont refusé de sortir. Ces gens-là qui ont refusé de sortir, c'est par adhésion au discours de l'opposition, aux valeurs et aux idées que Saint-Étienne nous défend de son partenaire, le Congo de Tibetanka. Les personnes qui sont restées à la maison, c'est un factoire. C'est un message envoyé à Félix Tshisekedi. Le problème du Congo, ce n'est pas la constitution. Un autre message, c'est dit à Félix Tshisekedi, c'est la priorité des priorités. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'insécurité des kidnappings. Vous avez dit à ça avant-hier. On a cambriolé, on a tabassé, on a créé des coups de balle en plein jour. Donc c'est le message que vous voulez envoyer à Félix Tshisekedi. Que vous êtes arrière, vous êtes à côté de la plaque, vous vous trompez. Nous ne sommes pas vos chèvres et vos chiens. Nous regardons ce que nous faisons, M. Félix Tshisekedi. Et que nous ne sommes pas d'accord. C'est ça le message. Donc, même un aveugle serré, même un sourd écouterait les messages d'aujourd'hui. Jamais, monsieur le journaliste Dimitri, ça fait 25 ans que je suis dans l'opposition. La dernière ville morte organisée dans cette ville, dans ce pays, c'était après la mort de Félix Tshisekedi. C'était en 2016, à l'époque que Jamais Kabound était encore le secrétaire général de l'UDPS. Cette ville morte organisée par l'UDPS en 2016, après la mort du patriarche du président Lumumba, c'était le chef. À 7 heures déjà, la ville était pleine de gens. Mais cette ville morte, convoquée par l'article 64, jusqu'à 13 heures, parce que c'était pas arrivé. Vous voyez les policiers qui vont intimider les gens avec des clés pour dire si vous n'ouvrez pas votre magasin, on va les fermer pour toujours. Les policiers qui ont intimidé les Libanais, qui ont intimidé les Indiens, qui ont les Indiens, qui les a.
Prince Epengé, voilà. Votre ligne n'était pas, ta ligne n'était pas bonne. La réalisation va essayer de régler cela. Meshak Mandefou, vous êtes professeur à l'université des droits, plutôt à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Vous êtes député national élu de Kazumba au Kasaï Central. Vous êtes également président du groupe parlementaire AACPG à l'Assemblée nationale et secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la nation. Et vous également, comment vous évaluez cette journée du 3 juin? À Kinshasa et ainsi qu'à travers la RDC.
Merci beaucoup, M. Guy Maté. Merci à tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent à ce moment-ci. Je viens de suivre M. Prince Epengé qui, selon lui, estime que cette prétendue ville morte a été une grande réussite à 80%, tantôt une fois de 89%. Et selon lui, moi je pense que c'était une ville vivante parce que toutes les activités ont eu lieu partout. Je commence par moi-même. J'étais à l'université de Kinshasa le matin. J'ai enseigné les avant-midi. À 13h, j'ai terminé. Et tous les étudiants étaient sur le site. Les activités étaient comme d'habitude. Donc, il n'y avait rien d'empêchement. L'université de Kinshasa, où j'ai fait partie, a organisé des activités en bonne et due forme. Les étudiants ont été au cours. Et tout ce qu'il y avait comme préoccupation majeure, selon eux, ont été soulevés et c'est à ciel ouvert. Déjà, après-midi, l'Assemblée nationale avait convoqué une plénière. Nous y étions, la plénière, la participation massive de tous les honorables députés. Lors du jour, on a débattu sur les questions qui ont été inscrites. Et ce soir, chacun est libre. Il n'y a pas d'incident. Il n'y avait pas de ville morte. Il faut rappeler, selon M. Guimaté, lorsqu'on réclame, on doit savoir on réclame quoi. Le peuple que nous sommes posera un jour la question à M. Pressempengue et son groupe qui défendent l'indéfendable. Quel a été le lien juridique avec l'agresseur de la RDC? Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la ville de Goma, de Bukavu et tant d'autres occupées par l'ennemi qui converge, qui complote avec M. Pressempengue, qui me suit en ce moment-ci. Il n'a aucune leçon à donner parce que M. Katumbi, nous avions vu plusieurs fois les communiqués signés entre le groupe, M. Kabila et les autres. Aujourd'hui, la population souffre. L'Est de la République agressé par l'ennemi. Mais c'est au contraire. Au lieu que l'on nous évoque l'article 64, nous devons commencer par appliquer l'article 63. Parce que la défense de la patrie contre l'agression appelle la mobilisation totale. Nous faisons partie de l'Union sacrée. Un méga organe où la majorité des membres étaient d'accord, il a travaillé et nous préparons. Selon notre organisation, je pense qu'il y aura une marche de soutien. Ce n'est pas ce que nous avions vu aujourd'hui parce que les gens ont travaillé. Monsieur Pierre, vous posez la question, il vous parle de Kimbuta. Voilà, nos amis qui ont été à la Tchangou, tout était normal, je n'ai pas vu. Et nous sommes dans ces pays, nous connaissons, nous avons quand même cette petite histoire, M. Guimaté. Lorsqu'il s'agissait des villes mortes, on sait ce qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous dire, voilà, 96%, c'est juste la chimère de nos amis. Mais je rappelle ici que c'était l'échec total et la population était libre. J'ai quitté chez moi ma campagne, j'ai pris la route de Lupin, j'ai acheté ce que je devais acheter et tout était normal. Personne ne peut venir ici dire que non, il y avait ceci. Les étudiants, je peux vous rappeler, les élèves même dans des écoles. Mais M. Pressempengue vous parle, il peut vous montrer combien d'écoles qui n'ont pas fonctionné. Les élèves étaient là, ils ont étudié. Et rien n'empêchait au peuple congolais de travailler comme d'habitude. Ils ont travaillé, nous vous parlons, jusqu'à présent, nous sommes encore dans nos bureaux en train de fonctionner à la normale. Ce qu'il faut rappeler seulement, M. Guimaté, parce que nos amis ont tendance de faire ce raccordement frauduleux en prenant des questions individualistes pour les coller sur le dos des gens. Aujourd'hui, la grande question que la population se pose, quel est le lien entre Pressempengue et sa bande avec M. Kabila et Kagame qui nous tue. Aujourd'hui, l'Est de la République assiégé par l'ennemi.
Oui, mais attends, M. Pressempengue, c'est quoi le lien entre l'action, n'est-ce pas, d'aujourd'hui et la guerre dans l'est du pays?
Non, mais écoutez, monsieur Guimaté, quand M. Pressempengue tentait de raconter, il y a eu ceci, le peuple a ceci, le peuple réclame la libération de l'Est de la République. Tant que le peuple voit les communiqués signés par Moïse Katumbi, signés par M. Kabila, tous les alliés de Kagame, ces peuples ne pardonneront jamais ces actes. Monsieur Guimaté, je vous rappelle que le sang de la victime créera vengeance jusqu'à l'infini. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple a besoin que tout le monde puisse travailler en toute liberté. Tant que l'Est est occupé, le peuple reste préoccupé également pour voir comment il faut manifester au fait de réclamer la libération totale. Aujourd'hui là, C'était un appel. Mais le peuple a boycotté parce qu'il ne pouvait pas obtempérer à un ordre manifestement illégal. Nous savons bien que le régime de manifestation dans notre système, au regard de la Constitution, est réglementé. L'article 26 est clair. Monsieur Prince Tungi, il vous a dit quelle a été la demande, quel a été l'itinéraire présenté. Non. C'est pourquoi le peuple a compris que c'est un jeu.
Honorable
de l'ennemi. Après un tel mot d'ordre.
Voilà, honorable Meshach Kemandefou, donc vous voulez dire que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a gêné à aucun point de vue le projet que le pouvoir a, celui, n'est-ce pas, de vouloir changer la Constitution?
Écoutez, Monsieur Dimaté, je fais partie de la PAJ à l'Assemblée nationale. Il n'est pas interdit à un député national de réfléchir. L'honorable Paul Gaspard Ngondankoy se référant à l'article 5 de la Constitution, parce que le référendum a un soubassement. Le peuple souverain peut tout décider. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir sur les éventuelles modifications ou changements de la Constitution.
Non, la question que je vais poser, c'est celle de savoir, est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui ne vous a pas poussé, n'est-ce pas, à essayer de repenser votre stratégie?
Il n'y a rien qui s'est passé aujourd'hui, Monsieur Dimaté. Aujourd'hui, tout était normal. Et je vous parle en étant toujours dans mon bureau. Rien ne s'est passé aujourd'hui. Vous pouvez voir vous-même ce que M. Prince Epengue raconte. Il raconte ce qu'il raconte au téléphone pour que les auditeurs le suivent.
Voilà,
en soi avons... comme ça, c'est une journée pour eux. Mais nous, nous pensons que c'était une journée régulière.
Voilà, nous avons Sangwa Bin Albert depuis Kalemie dans la province du Tanganyika qui nous écrit en disant « Cette journée du 3 juin 2026 est une victoire éclatante pour la démocratie congolaise. En dépit des intimidations et les déploiements policiers, le peuple a choisi de rester chez lui, prouvant ainsi que la souveraineté appartient aux citoyens et non à ceux qui cherchent à tripatrier notre loi fondamentale. Cette réussite visible dans le silence des artères désertes est un message sans équivoque. Les Congolais ne laisseront pas brader leur constitution. Bravo à l'opposition congolaise, car ce n'est qu'un premier pas. La vraie lutte reste encore devant et la population congolaise est prête. » Honorable Meshach Kemandefou.
Oui, Monsieur Guimaté, j'ai suivi la réaction de cet auditeur. Mais je peux vous rappeler le texte constitutionnel que l'auditeur évoque. C'est ça quel fondement. Moi, je vous ai dit, l'article 5 de notre constitution nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Le référendum n'est pas une imagination d'un individu, mais plutôt un mode prévu par la Constitution. L'auditeur doit savoir que le référendum, on en a plusieurs types. Le référendum constitutionnel peut avoir comme modalité, lorsque le peuple veut s'exprimer,
évidemment,
d'aller même au-delà.
Oui, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Alors, lorsque vous dites que c'était un échec, est-ce que vous avez vu des écoles qui ont fonctionné aujourd'hui?
Monsieur Guimaté, je vous dis, les écoles ont fonctionné. Moi-même, je suis professeur des universités. J'étais à l'université de Kinshasa le matin. J'ai enseigné mon cours de procédure pénale militaire.
Et les étudiants étaient là?
J'ai d'autres collègues qui sont à Lubumbashi. J'ai d'autres collègues qui sont à Lubumbashi. L'université de Kinshasa, vous pouvez poser vos antennes. On va vous dire que tout était normal. Les écoles où mes enfants étudient, ils étaient à l'école le matin avant de monter à l'université. Je les ai accompagnés. Il ne faudrait pas suivre les choses que l'on imagine dans la chimère. Moi,
merci.
Je vous parle des choses réelles.
Merci,
tout
honorable.
Était normal. Tout a fonctionné comme il faudrait.
Merci, honorable Meshach Mandefou. Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPN, vous intéressez à l'État et à la démocratie. Vous également, votre évaluation par rapport à cette journée du 30 juin à Kinshasa ainsi que dans certaines villes de la RDC.
Bon, avant de donner mon point de vue, je voudrais d'abord rappeler que est-ce qu'il faudrait saluer qu'il y a eu effectivement un dispositif sécuritaire qui a permis qu'aujourd'hui les Quinois roulent à vive allure sur des voies presque dégarnies. Si nous nous en tenons à ce que l'honorable venait de dire, mais ce que je dois dire personnellement,
la circulation était fluide.
C'est que, alors c'est pourquoi je me demande si il n'y a rien eu. C'est que nous devons féliciter la police qu'ils ont maîtrisé la situation d'embouteillage et que prochainement Kinshasa ne connaîtra plus cette ambiance à laquelle nous sommes confrontés chaque jour pour nous déplacer. Donc la mobilité est maîtrisée. Si tel est le cas, félicitations au gouvernement provincial pour cet exploit. Mais au-delà de ça, je reviens sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sans tenir un discours politicien, nous devons reconnaître qu'il y a eu quand même un mot d'ordre de l'opposition qui a demandé à la population de rester à la maison. De ce mot d'ordre, en nous réveillant, nous avons constaté que l'ambiance des Quinois n'était pas la même. Et au regard de ce que vous avez dit, nous constatons que toute la République était en alerte et que le pouvoir s'est déployé pour déjouer ce que l'opposition avait demandé à la population. Est-ce qu'il faut dire que l'opposition a réussi son coup? Est-ce qu'il faut dire que le pouvoir a continué à avoir le contrôle total en empêchant le coup de l'opposition de se réussir? Je dirais que la réponse pourrait, à mon niveau, être mitigée. Pourquoi? Parce que ce que nous avons constaté à Kinshasa pourrait s'expliquer sous plusieurs angles. Le premier angle, ça peut être la peur. On ne sait pas se déplacer parce que Prince Ping, dans son tweet, avait demandé à chacun de garder son véhicule à la maison au risque de le perdre. Ça peut s'apparaître ou s'apparenter à une menace. Ça ne peut même pas s'apparenter à une, c'est une menace. Alors pour protéger mon véhicule que j'ai gagné difficilement, j'accepte de le garder à la maison. Pour protéger mes enfants contre toute forme d'insécurité qui se créerait à la suite du refus d'obtempérer le mot d'ordre, je préfère garder mes enfants à la maison. Pour ne pas perdre ma petite boutique à la suite des désordres qui adviendrait parce qu'il y a eu un mot d'ordre et une menace de l'opposition, je préfère fermer ma boutique.
Et donc il y a une dimension de peur qu'il faut prendre en compte.
Nous prenons en compte une dimension de peur qui pourrait être à la base du refus de vaquer librement ses occupations. Deuxième aspect. Il nous est difficile aujourd'hui de dire effectivement que c'est par conviction, c'est par refus d'accompagner le pouvoir dans sa stratégie de changement ou de modification de la constitution que l'ambiance des Quinois était maussade, n'était pas au rythme habituel. Parce que moi j'habite Upen, je n'ai pas mis 2 heures comme d'habitude pour atteindre le centre-ville. C'est moins de 30 minutes que j'étais au centre-ville. C'est un exploit pour la ville de Kinshasa. Et pourquoi c'est arrivé? Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? J'appelle le pouvoir à bien réfléchir. Je suis politologue de formation. C'est un appel à revisiter les stratégies. Je me fais comprendre. Donc c'est un appel à revisiter les stratégies.
Et donc il y a une frange de la population...
Il m'est difficile sociologiquement ou politiquement de dire que le mot d'ordre est totalement observé. Ou effectivement, si nous avons connu cette ambiance qui n'est pas habituelle, c'est parce qu'il y a un mot d'ordre. Il m'est difficile de le dire. Mais cela ne va pas amener le pouvoir à croire que le boulevard est ouvert, il peut vous rouler à n'importe quelle allure.
Et
le pouvoir doit être plus stratège, plus intelligent, pour éviter
d'être pris au dépourvu.
Et à ce stade, peut-on déjà, mesurer, professeur, à ce stade, peut-on déjà mesurer, ou c'est encore tôt, et peut-on déjà mesurer ce que cette action de l'opposition d'aujourd'hui a eu comme impact sur les projets du pouvoir de vouloir
changer la Constitution. Il m'est difficile de le dire, mais c'est un message. Hein, il ne faut pas être actif dans la prise de position, mais c'est un message. En tant que politique, il faut réfléchir sur ce message pour bien affûter les stratégies.
Voilà, Journée Villemonte pour s'opposer, n'est-ce pas, à tout projet de changer la Constitution. Quelles pourraient être, à votre avis, quelles pourraient être les forces ainsi que les limites d'une telle approche?
Donc, le jeu d'abord, c'était montrer au pouvoir qu'il y a une opposition qui peut déranger vos actions. C'était ça l'enjeu majeur pour l'opposition. Et si, effectivement, au-delà des discours d'intimidation qui ont poussé les gens à prendre des réserves par rapport au mot d'ordre, il faudrait, j'insiste, que le pouvoir revoie ses stratégies.
Et cette approche de l'opposition.
Parce que
l'approche de l'opposition.
Cette approche.
Oui. Est-ce qu'elle a des forces?
Si elle s'affirme. La force, c'est que on paralyse le fonctionnement régulier des institutions. Si pas au niveau du gouvernement central, au niveau des institutions politiques, mais l'administration n'a pas connu son rythme habituel. Et si la ville a l'habitude de faire entrer 10 000 francs, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent bien revoir leurs calculs par rapport à l'activité telle qu'elle se déroule ou aux activités telles qu'elles se déroulent régulièrement.
Et les limites d'une telle approche?
Les limites, c'est que le pouvoir peut se sentir encore regardé parce qu'il n'a pas dépensé beaucoup de moyens en termes de sécurité, par exemple. Hein? Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu d'intimidation par-ci par-là. Il y a eu quelques poches de résistance, mais ça n'a pas mobilisé de manière excessive la police ou ça n'a pas bousculer la dynamique politique au sein de la majorité. Mais c'est un message fort. Sur le plan économique, ça doit avoir touché. Sur le plan politique, il faut écouter. Bon, sur le plan sécuritaire, ça n'a pas appelé à... Peut-être que la police était mobilisée pour parer aux éventuelles poches de résistance, mais le travail sur terrain n'a pas amené la police à travailler suffisamment.
Merci. Merci. Nous allons maintenant écouter ce que.
Et puis, je peux ajouter un élément.
Allez-y rapidement.
Mais Kinshasa, ne pas le Congo.
Oui.
J'ai suivi l'élément. Moi-même, je n'ai pas eu le temps d'avoir tous les échos à travers le pays. Et je crois que l'opposition doit aussi beaucoup travailler pour avoir avec elle l'ensemble du pays, et que le pouvoir a encore un contrôle suffisant sur le reste des villes qui ont vaqué librement leurs occupations, au-delà de la lenteur qu'on a ressentie par-ci par-là, au regard des éléments qui ont été présentés dans le reportage dans les Lungs. Donc l'opposition ne peut pas se frotter les mains, hein, parce que le mot d'ordre doit rencontrer l'ensemble, ou doit être vécu de la même manière sur l'ensemble du territoire national.
Et donc ce qu'on retient, c'est que l'opposition ne doit pas se frotter les mains.
Ni l'opposition.
Et le pouvoir non plus ne doit pas se frotter les mains.
Personne. La réalité reste encore mitigée.
Merci.
Personne. J'ai doute fort. Et où je me suis mal placé de dire que les uns et les autres, parmi eux, il y en a qui ont gagné. Mais je demande au professeur d'être assez modeste et reconnaître effectivement, objectivement, au-delà de sa casquette politique, reconnaître objectivement que la ville n'a pas fonctionné au rythme normal.
Merci. Nous allons maintenant écouter ce que les auditeurs voudraient, n'est-ce pas, dire par rapport à cette thématique. Et Prince Sepengue, je ne sais pas s'il est là, parce que sa ligne est dérangée beaucoup. Je ne sais pas s'il est là. Prince Sepengue, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Ah, ok, ça s'est amélioré. Voilà, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la province du Nord Kivu.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Akonkwa Kigri depuis la province du Nord Kivu. L'appel de l'opposition contre le changement de la constitution ne devrait pas être suivi à 100% puisque certains habitants n'ont pas compris pourquoi l'opposition congolaise n'a pas mobilisé la population congolaise contre l'agression du pays d'abord et après le changement. C'est cette réflexion qui a poussé à une faible mobilisation puisque la population a compris que cette opposition s'inscrit dans la cohérence de rechercher leur positionnement politique et non l'intérêt général du pays. Quant à la partie qui a répondu à l'appel, l'a fait puisqu'il serait motivé par les billets des banques et les autres par des promesses une fois le projet du changement de la constitution échoué. Concernant l'appel de la majorité au pouvoir à la population d'évacuer librement à ses activités quotidiennes est un signe de responsabilité puisque les dirigeants dignes ne peuvent pas demander à ses dirigeants d'accompagner une demande jugée moins fructueuse pour le développement du pays. Merci.
Prince Epengé.
D'abord, l'appel de l'opposition était suivi à 85%. Même au-delà de Kinshasa, les Congolais sont restés à la maison. Ici à Kinshasa, la population chinoise a obéi au mot d'ordre. Pas parce que Prince Epengé a parlé, mais parce que la population voulait dire à Félix Tshisekedi que aujourd'hui, la constitution n'est pas la base du chômage. La constitution n'est pas à la base de la pauvreté. La constitution n'a pas détourné l'argent des 100 jours. La constitution n'a pas détourné l'argent des rames. La constitution n'a pas détourné l'argent des 145 territoires. La constitution n'est pas la base des braquages, des viols. Et la constitution n'est pas à la base de l'agression. Comme Papa Mosengo, cardinal Mosengo, père à son âme, avait dit que les médiocres dégagent. La médiocrité est au niveau des dirigeants. On peut donner au Congo la constitution américaine. Dans ce contexte de viols, de textes, de violations des droits humains, de vols, de détournements, de traquenards, de magouilles et de mensonges, on ne changera rien. Donc, avant de changer la constitution, changeons d'abord la qualité d'homme. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'opposition, moi, je suis porte-parole de la coalition Lamuka, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement congolais des Congo, membre de 1964, dans cette ville. Lamuka, avec le président Martin Fayulu, Prince Epengé, nous avons marché contre la guerre d'agression. On a organisé 3 marches. Le 19 février 2021, Prince Epengé a été arrêté devant l'ambassade du Rwanda parce qu'il avait mobilisé la jeunesse de Lamuka pour demander à ce que Félix Tshisekedi puisse expulser, chasser l'ambassadeur rwandais de Sankarika qui avait affirmé à l'époque que l'armée rwandaise n'a jamais tué quelqu'un au Congo. Mais la Félix Tshisekedi avait envoyé sa police pour arrêter Prince Epengé, les tabasser. Les images sont là. Donc, dans ce pays, s'il y a un parti, s'il y a des politiciens qui ont lutté contre le Rwanda, c'est bien Martin Fayulu, c'est bien Prince Epengé. Donc, on n'a pas de leçon de morale à recevoir d'un ministère de l'État. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La mobilisation était totale. Monsieur Mandefu a menti. Désolé, c'est un professeur d'université. J'aurais voulu qu'il soit un peu honnête et sincère. À l'élection, il n'y a pas eu cours. Il vous raconte il vous raconte sa vie. Moi, je suis chercheur à l'INEKIN et je suis politologue de formation. À l'INEKIN, moins de 5% étaient présents. À l'intendance, jusqu'à 10 heures, 8 total. Partout là-bas.
Est-ce que ils l'ont fait? Les étudiants l'ont fait. Les étudiants ne sont pas venus tout simplement parce que ils étaient convaincus, n'est-ce pas, de l'action de l'opposition, ou c'est par peur, n'est-ce pas, des représailles de la part de l'opposition que les étudiants ne sont pas allés à l'université.
Vous voyez, les étudiants venir rester à l'école par peur? Non. Les étudiants, tout d'abord, qui a fait peur? Personne. Nous, on n'a pas d'armes, nous. On n'a pas la force du progrès, on n'a pas la milice politique de l'IDPS.
Prince Epengé.
Les étudiants n'ont fait pas compte.
Oui. Jean-Prince Mouyi à Bandounouville, dans la province du Kwilu, dit ceci. La journée ville morte décrétée par l'opposition congolaise a tellement échoué ici à Bandounouville. La population a préféré travailler que de suivre les opposants qui cherchent des positionnements. Du point de vue social, la population de Bandounouville a boycotté cette dernière avec fermeté. J'en appelle à la conscience de toute personne qui aime bien son pays, que ce soit la majorité ou l'opposition, car dans un pays en guerre comme le nôtre, des pareilles choses ne peuvent pas se faire.
D'abord, c'est un militant de l'UDPS déjà. Je vous signale.
Il ne l'a pas dit.
Il a déjà écrit. Il a déjà écrit quand j'étais dans une émission à Sud TV, chaîne concurrente. Laissez-moi terminer. Deuxièmement, j'ai une grande fédération ADD Congo du côté des Kikuit. Ils ont marché. Et plutôt, ils ont gardé la ville morte. Et des deux, l'appel principalement de la ville morte était lancé à Kinshasa, destiné à Kinshasa. Nous montons à niveau. Nous montons en puissance. Je vous rappelle, ça fait 25 ans que je suis dans l'opposition. Je n'ai jamais trahi mon peuple. La dernière ville morte dans ce pays a été organisée en 2016.
Vous l'avez
à l'époque, Jamal Kabound était encore secrétaire général de l'UDPS. Donc, après 10 ans, c'est la première ville morte qui a paralysé tout Kinshasa et beaucoup de provinces. Mais nous allons monter et il y aura la paralysie de tout le pays.
Merci.
Dans le cadre de la Constitution. Laissez-moi terminer.
Allez-y rapidement, on n'a pas assez de temps. Allez-y rapidement.
Il a dit, monsieur le professeur a dit que Prince Epengé a fait peur aux Congolais. Faux. Prince Epengé n'a pas d'armes. Au contraire, Prince Epengé a appelé à protéger les Congolais. Prince Epengé a dit aux Congolais, laissez vos vêtements à la maison. Pourquoi? Parce que aussitôt que la coalition C64 a appelé à une ville morte, 2 heures après, la force du progrès de l'UDPS a appelé à aller à l'aéroport accueillir son chef qui venait de l'Europe. Christian Lumu, président de la jeunesse de l'UDPS, a appelé à une grande marche le même jour, à la même date, à la même heure à Kinshasa. Lieutenant Bomanga a appelé à sortir dans la rue. Prince Epengé d'État, Molobeli, à peuple. Les protecteurs des Congolais, il a compris que l'UDPS voulait foutre les désordres dans la ville.
Merci.
C'est comme ça qu'il a dit aux Congolais, laissez vos vêtements à la maison. Ne reportez pas à Prince Epengé le fait de protéger son peuple. Donc, je suis
tout à fait dans
ce pays. C'est pas une menace, loin de là.
Merci beaucoup.
Dans ce pays, l'UDPS brûle les chefs des partis politiques, l'UDPS casse les chefs des gens. Mon siège, ADD Congo est attaqué par la force du
Congrès. Merci, vous n'allez pas monopoliser la parole, il y a beaucoup de gens qui doivent intervenir. Merci, Prince Epengé. On a compris. Honorable Meshak Mandefou, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Depuis la ville province de Kinshasa, je pense que la preuve est dans les rues. Kinshasa, connu par ses embouteillages, s'est retrouvé aujourd'hui paralysé. Magasins fermés, transports à l'arrêt, artère déserte, pas de cortège, juste une ville morte. C'est ça la vraie victoire de l'opposition. Le pouvoir a cru que l'appel de l'opposition échouerait, mais ses réactions disproportionnées ont amplifié l'événement et révélé sa propre vulnérabilité. Je pense que la véritable opposition, ce n'est ni Fayoulou ni Kabila, c'est la population congolaise qui rejette chaque jour un bilan chaotique, insalubrité, services publics paralysés, inflation, insécurité. Alors, quand les forces de l'ordre doivent forcer les commerçants à réouvrir, ce n'est pas un signe de force, mais de fragilité. La peur a changé les camps. Le pouvoir est sur la défensive. Je pense que Félix Tshisekedi doit désormais se préparer à partir en 2028. Et une chose est sûre, à mes yeux, il n'y aura pas un changement de la Constitution. Le peuple ne l'acceptera pas.
Professeur Meshak Mandefou.
Merci beaucoup, Monsieur Guimaté, de la réaction de l'auditeur. Je rappelle d'abord ce qu'est le peuple. Et que aujourd'hui toutes les démarches mises en place par la démarche parlementaire de mon collègue honorable Paul Gaspard ont un fondement. Le fondement constitutionnel, l'article 5 est clair, s'agissant du référendum. aujourd'hui et dire bilan chaotique, les forces de l'ordre qui demandaient au peuple de d'ouvrir leurs boutiques, le président, etc. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Vous parlez de votre échec de la journée, entre guillemets, Villemorte, que vous vous avez dédié. Ici, je vous ai dit, je le rappelle, on est sorti chez soi. On a été partout, à l'université. Et peut-être Presse Pengue, il ne connaît pas bien l'université de Kinshasa. Quand il parle de 5% intendance, non mais écoutez, nous avions fait toutes ces routes-là. Aujourd'hui, on est encore là en train de travailler. Rien n'a été au rendez-vous. On ne peut pas se permettre devant la radio comme Radio Capi, mentir comme il a tenu ses propos. Ce n'est pas digne. La moralité de par les casquettes que nous portons nous oblige de dire la vérité, rien que la vérité.
Vous avez aujourd'hui, suivi, vous avez suivi le professeur Alidor Tshibanda qui est avec nous dans ce studio, qui pense qu'au-delà de tout ce qui a été fait, vous qui êtes professeur, n'est-ce pas, vous devez aussi réfléchir par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. N'est pas banalisé totalement, mais essayez de réfléchir.
Monsieur Guimaté, j'ai suivi le caractère neutre du professeur. Il a rappelé à la mise en place des stratégies qui peuvent aider. C'est sa réflexion comme politologue, mais moi je vous parle de faits réels. La population était en route, ils ont travaillé, il n'y a pas eu ce que les gens ont tenté faire. Mais au contraire, le professeur lui-même a commencé par rappeler la menace de M. Presse Pengue sur sa page Twitter. La population, voilà, ne sortez pas votre véhicule pour créer cette panique dans les chefs de la population. Mais la population n'a pas écouté. Aujourd'hui là, nous avons une histoire récente. Lui-même, Presse Pengue, qui rappelle d'abord des fausses dates pour dire la dernière fois où il y a eu ville morte. Je peux lui rappeler que c'est le 3 avril 2017, où la toute dernière journée déclarée ville morte. C'est pas la date que lui-même nous évoque ici. Mais en toute honnêteté, il sait bien que rien n'a été au rendez-vous aujourd'hui. La population est inquiète, comme l'a dit l'auditeur du Nord Kivu.
Merci. Merci, honorable Meshack Mandefou.
Aujourd'hui,
professeur Alidor Tshibanda, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Mbujima et au Kassai oriental.
Depuis Mbujima et au Kassai oriental. À Mbujima, nous avons observé une journée relativement calme, avec des activités qui se sont globalement déroulées comme à l'accoutumée. Les marchés, les commerces et plusieurs services ont fonctionné normalement, malgré les tensions et les appels contradictoires enregistrés au niveau national. Néanmoins, j'ai des questions. Alors que dans plusieurs villes du pays, dont Mbujima et la population, demeure davantage préoccupée par les difficultés quotidiennes, le chômage, la cherté de la vie, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et autres. Les régimes en place ne risquaient-ils pas de donner l'impression de privilégier les débats politiques et constitutionnels au détriment des véritables préoccupations sociales et économiques de la population? Face aux nombreux défis qui affectent le quotidien de la population, ne serait-il plus opportun de concentrer les débats politiques sur des questions prioritaires, des développements et des bien-être collectifs, plutôt que des positionnements essentiellement politiques?
Professeur Alidor Tshibanda.
Merci. Bon, je crois que la définition substantielle de la Constitution, c'est une vision qu'un peuple donne comme fil conducteur de toute son action. Donc il ne faut pas dissocier le débat constitutionnel de l'environnement général de la vie de la population. Tout se tient, tout se lie. Et c'est ça le fonctionnement des systèmes politiques. Mais je reste d'avis que c'est une préoccupation majeure. Et cette préoccupation peut trouver aussi sa réponse dans la Constitution. Parce que quand nous voyons comment fonctionnent nos institutions provinciales, on a affaire à des entités défaillantes. Hein? Si les entités infra-étatiques était des sociétés, on allait demander qu'on déclare, lorsqu'une société devient incapable de prendre en charge d'abord son propre personnel, devient incapable, de prendre en charge son propre personnel. Et vous allez dire que c'est une société qui vit. C'est une société qu'il faut laisser continuer à fonctionner comme ça. Il y a des préoccupations qu'il faut soulever. Mais là où ça pose problème, c'est de la manière dont on procède. Moi, je crois que je l'ai dit toujours. Et je pense que parler de changement constitutionnel, parler de modification constitutionnelle, ce n'est pas un tabou. C'est une option qui peut être levée par la classe politique, par le gouvernement, pour améliorer la cohérence ou pour améliorer le fonctionnement institutionnel. Mais là où ça pose problème, c'est la démarche qui est entreprise qui me paraît trop biaisée. Comment vous voulez qu'une constitution déclarée définitive puisse prévoir le mécanisme de sa propre autodestruction? C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi ça suscite beaucoup de réactions qui nous disent clairement que nous voulons changer la constitution pour telle raison. On va écouter, il y aura débat et je termine. Donnez-moi ici une minute,
allez-y.
Au lieu de faire des raccourcis, comme l'a dit lui-même le professeur, frauduleux, c'est-à-dire le référendum dont il fait référence à l'article 5, il est bien précisé dans le cadre de la constitution. Il ne sort pas de la constitution. Il ne faut pas confondre le pouvoir constituant originaire du pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant dérivé agit dans la Constitution. Le pouvoir constituant originaire, il n'est pas prévu par la Constitution. Alors, s'ils veulent changer la Constitution, appeler le pouvoir constituant originaire, ils procèdent à l'action. Ils le savent.
Voilà,
professeur, ça devient de malice stratégique politique inutile.
Nous sommes à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Oui. Au-delà de tout ça, comment vous entrevoyez, n'est-ce pas, la suite de ces... De cette lutte ou de ces débats sur la réforme de la constitution dans ces pays.
Je venais de le dire, qu'on ne fasse pas de raccordement frauduleux. La loi référendaire ne peut pas violer la constitution dès lors que la constitution a prévu comment toutes les modalités dans lesquelles on peut appeler le peuple au référendum. On ne peut pas s'asseoir sur une constitution pour la changer. Il faut sortir de cette constitution et poser un problème politiquement. C'est ça le vrai débat. Deuxième chose, la situation sécuritaire nous appelle à la prudence. Nous avons besoin de permettre au chef de l'État de se battre. On dit qu'il a une mission, que ce soit une mission, que ce soit un mandat, mais de se battre pour recouvrer l'unité nationale. Dès lors que nous aurons l'unité nationale, ceux qui ont pris les armes ont déjà prôné, ils pensent qu'on atteigne le fédéralisme. Au Congo, ceux qui sont du côté contrôlé par le gouvernement veulent qu'on parle, qu'on garde l'unitarisme en décentralisant davantage la constitution, avec nécessité d'encadrer cette décentralisation. C'est pourquoi j'ai dit, si on a l'intégrité territoriale, le débat sur le changement ou la révision constitutionnelle va suivre, parce que, je termine par là, parce que cette constitution, je posais une question sur un débat sur Twitter à quelqu'un pour demander si cette constitution est déjà totalement appliquée.
Merci François Pengue. Vous allez aussi conclure. Hein. Jusqu'où la C64 compte aller dans sa lutte pour protéger plutôt la constitution? Allez-y rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission.
Laissez-moi pas si vous ne parlez beaucoup. Dès que j'ai dit la C64, donc nous de la coalition Lamouka, mon parti Allié des Congo, ensemble, FID, tous les partis avant les autres, le parti de Jamal Kabou, nous allons nous réunir pour faire le bilan qui est déjà positif, élogé. Bravo peuple. Voilà les peuples pour lesquels on est fiers, un
Merci.
Peuple conscient.
Merci, Prince Epengue, on a compris. Meshak Mandefou, votre mot de la fin.
Merci, M. Guy Maté. Je voulais juste rappeler que le référendum prévu à l'article 5 échappe à la procédure prévue à ces trois types de référendums que nous avons dans notre
constitution.
Je ne partage pas ce point de vue, monsieur le professeur.
Ça, c'est notre débat, professeur. Votre mot de fin, professeur Mandefou, par rapport à la journée d'aujourd'hui, la vie.
Merci beaucoup. Je rappelle que
les autres types de référendums sont prévus bel et bien dans la Constitution. En ce qui concerne le déplacement de la capitale, la cession d'une partie du territoire et d'une partie où ça se concerne la révision.
Merci.
Tout est clair. L'article 5, c'est un mode d'expression souverain. Il faudrait que la population...
Je ne partage pas personnellement ce point de vue, monsieur le professeur.
Nous allons organiser un autre débat au sujet, nous allons nous focaliser, n'est-ce pas, sur les référendums, hein, n'est-ce pas. Voilà, mais pour aujourd'hui, on a fini. Merci beaucoup à Meshak Mandefou d'avoir accepté de participer à cette émission, à Prince Epeng également, et aussi à Alidor Chibanda. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, et aussi merci à Donat Madimba et Benjamin Mzumbi qui l'ont réalisé, et à Sylvain Baogouer qui était à la technique, et Pierre Diasnois qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.